Je vous propose maintenant que nous examinions quelles sont les raisons qui peuvent conduire un leader à ne pas être dans la dernière position décrite, c'est-à-dire où il a des valeurs adaptées à la situation, à l'environnement, et il a un comportement qui est en cohérence avec ses valeurs. J'ai identifié deux catégories de difficultés qui peuvent conduire un leader à cet écart. Les premières difficultés, ce sont des difficultés d'ordre psychologique. Ça peut par exemple être le conflit chez un leader entre des valeurs qui sont contradictoires. Par exemple, le conflit entre des valeurs suivantes: d'une part, favoriser l'autonomie des collaborateurs. Donc ça, c'est un objectif qu'il a parce que c'est une vision qu'il a de son rôle. Et pour lui, parmi les valeurs qui fondent la qualité d'un leader, il y a cette valeur d'être capable de favoriser l'autonomie de ses collaborateurs et de se comporter de cette façon. Et une autre valeur qui peut être faire un travail impeccable, diriger un service irréprochable, ce côté perfectionniste. Et donc le leader, au contact de la première valeur, va avoir tendance à favoriser les initiatives et l'autonomie de ses collaborateurs. Mais si à un moment précis il voit un collaborateur qui n'a pas le comportement le plus approprié avec par exemple un client ou un collègue, le leader peut être poussé à ce moment-là par la deuxième valeur. Et il risque de court-circuiter son collaborateur, de court-circuiter la phase d'apprentissage et d'intervenir directement. Et ce type de risque est particulièrement fréquent lorsque la personne qui dirige une équipe est elle-même experte dans la technique utilisée par l'équipe. C'est le cas typique de l'ouvrier très qualifié et très expérimenté qui devient chef d'atelier. Donc c'est une première catégorie de difficulté qui est une difficulté d'ordre psychologique, de télescopage entre deux valeurs qui sont internes à une personne. Deuxième difficulté sont des difficultés d'ordre technique. Et là, à l'évidence, le manque de maîtrise des outils de management, qui est quand même très fréquent, ou de gestion de la relation, peut conduire le leader à commettre des erreurs malgré sa bonne volonté. C'est le problème de l'artiste qui est peu expérimenté et qui constate l'écart entre son intention et son œuvre. Il s'agit donc d'un manque de connaissances et aussi d'un manque de maîtrise d'outils de management. Le leader doit donc vérifier sa compétence. Dans la mesure où il a identifié le type de comportement qu'il doit avoir en cohérence avec ses valeurs et avec les objectifs de la structure, il doit se poser la question suivante: ai-je les compétences nécessaires pour avoir le comportement adapté en tant que leader maintenant que j'ai identifié quel est le comportement qui doit être adapté? S'il constate que ce n'est pas le cas, il a deux options. Il peut soit rechercher les moyens de développer les compétences qui lui manquent, soit rechercher, pour les missions qui sont les siennes, celles où il manque de compétences, et une fois qu'il les a identifiées, confier ces dernières à une personne experte en la matière. Son rôle à ce moment-là n'est plus de faire, mais de superviser la personne. Et je vous rappelle ma vision du rôle du patron: ce n'est pas celui qui sait, ce n'est pas celui qui fait, c'est celui qui sait faire faire à celui qui sera le plus efficace. Il y a une troisième option, c'est de combiner les deux précédentes. C'est par exemple de mettre en place de façon temporaire une organisation qui lui laisse le temps nécessaire pour développer les compétences dont il a besoin, et en parallèle de mettre en place une démarche spécifique pour développer ses compétences. Alors j'ai conscience que ces propositions vont à l'encontre de ce que j'appelle la culture ambiante concernant le management et concernant les managers. Dans notre culture, il n'est pas de bon ton que l'on puisse envisager qu'un leader ait des limites. Et le fait de les évoquer frôle le crime de lèse-majesté. Et si, de façon exceptionnelle, un leader évoque les siennes, c'est parfois pour rechercher les options pour que cela ne se voit pas, et pas pour résoudre. Mais je vais vous donner un exemple issu du sport, pour illustrer ce que je viens de dire au préalable. Je prends dans le cadre de la Coupe de l'América. L'un des critères essentiels de performance dans cette compétition est certainement la cohésion de l'équipe et l'aptitude du skipper à en extraire la quintessence. Tous les skippers des bateaux engagés dans cette compétition ont la réputation justifiée d'être de remarquables leaders. Or, pour la grande majorité d'entre eux, ils cèdent la barre et le commandement du bateau à un autre membre de l'équipe pendant la procédure de départ de la régate. En effet, c'est un temps très spécifique, nécessitant de la part du skipper des qualités et des aptitudes tout à fait particulières. Et dans la mesure où ils ont à bord quelqu'un qui sera un meilleur leader pour ce temps déterminé, ils choisissent l'option la plus efficace pour l'équipe. Voici une suggestion complémentaire. Eu égard à la dimension stratégique des questions qui viennent d'être abordées, s'il vous paraît nécessaire de clarifier, en tant que leader, votre fonctionnement de leader, d'une part, sa cohérence avec vos compétences, vos objectifs individuels, vos aspirations personnelles et les objectifs de la structure, il me paraît intéressant, sain, utile que vous envisagiez une ou deux séances de coaching sur ce thème, qui est à l'évidence stratégique à la fois pour votre organisation et pour vous-même.